Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série « Imaginaire et éthique ».
Donc, je vous souhaite bienvenue à cette séance du séminaire « Figura, l'imaginaire comme éthique ». C'est une séance qui s'inscrit dans la construction d'un pôle de recherche qui s'intitule « Politique de l'imaginaire », qui est sous la houlette de David Bélanger, et qui réunit Cassie Bérard, Hercy Contougouris, Jean-François Hamel, Alexis Lucier, Mélodie Simard-Houd, Louis-Paul Willis et moi-même, donc je suis Mathilde Baraban. Je vais animer aujourd'hui la séance. C'est un pôle qui est lié à l'axe 1 du centre, donc qui est lié aux imaginaires du social et du culturel, éthique, politique et droit, c'est l'énoncé auquel on se rattache. Et l'enjeu qu'on s'est fixé, c'est d'explorer le dicible, le représentable, évidemment le figurable, pour être dans le thème de Figura, en regard des normes, qu'elles soient politiques, éthiques ou juridiques. Ce pôle-là réunit des auteurs qui vont s'intéresser peut-être plus spécifiquement au rapport entre l'art et le politique, l'art et l'économique, l'art et le droit, l'art et la presse. Mais les deux séances qu'on a proposées du séminaire de Figura sont aussi des séances qui sont pour nous importantes parce que c'est l'occasion de commencer à nouer un dialogue. C'est un pôle qui est en construction, je pense que c'est le petit dernier de Figura. On avait envie que ce soit l'occasion de commencer vraiment à tisser un dialogue. C'est pour ça qu'on ne va pas suivre tout à fait la formule conventionnelle d'une série de conférences. On a eu plutôt l'idée, on s'est rencontrés plusieurs fois tous les quatre, de trouver des grandes questions auxquelles les uns et les autres vont répondre, pas moi, hein, mais David, Laurence et Cassie. Après ces périodes qui vont se ressembler un peu à une table ronde, je vais leur laisser une période pour pouvoir rebondir sur les interventions des uns et des autres. La séance d'aujourd'hui, donc, elle s'intitule « Au nom de la loi, manifestation littéraire de l'autorité ». La prochaine séance va avoir lieu le 22 mars et elle s'intitule cette fois-ci Droit de l'art et de l'imprimé, le dicible et le représentable. Elle va réunir cette seconde séance, Hercy, Mélodie, Jean-François et moi-même. Vous allez voir que nous, on va être plus conventionnels, on va probablement faire une série d'interventions un peu plus de type communication. Mais les deux séances, elles sont pensées un petit peu en miroir, puisque là, aujourd'hui, on va s'intéresser aux manifestations de la loi dans la littérature, dans les œuvres, peut-être un peu plus généralement, tandis que la seconde séance, je dirais qu'elle va s'intéresser aux effets manifestes de la loi ou du droit sur le texte, notamment avec les questions de censure ou d'interdiction. J'ai demandé aux trois conférenciers une notice bio-bibliographique. Je vais commencer par David, je pense que je suis allée par ordre alphabétique. Ouais, c'est bon. Donc David, il est professeur au département de lettres et communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et il a fait paraître en 2019 un ouvrage de critique interventionniste sur Maria Chapdelaine qui est intitulé « Il s'est écarté, enquête sur la mort de François Paradis ». J'appuie sur les mots hein, parce que je pense qu'on va reparler d'enquête. Donc un livre qui a été coécrit avec Thomas Carrier-Lafleur. Il a aussi publié un ouvrage tiré de sa thèse intitulé « Appelé à comparaître, la littérature dans les fictions québécoises au XXIe siècle » qui est paru en 2021 au PUM. Il est directeur adjoint de la revue Tangence, co-directeur du Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes, donc le CRIST, directeur du pôle politique de l'imaginaire qui nous réunit aujourd'hui. C'est politique avec un S. Quant à Cassie, elle est professeure ici à l'Université du Québec à Montréal, où elle enseigne les théories de la fiction, les théories de la narrativité et la création littéraire. Elle est également écrivaine. Elle a dirigé ou co-dirigé trois recueils collectifs de fiction parus aux éditions L'Instant Même, dont le plus récent s'intitule « Le cas, quel domaine judiciaire pour la littérature ?» Donc c'était en 2001. Elle a publié quatre romans, dont les deux derniers, « La valeur de l'inconnu » et « L'équilibre » sont parus aux éditions La Mèche en 2019 et 2021. Elle est donc membre de Figura. Elle bénéficie d'une subvention de recherche création du FRQSC, pour un projet qui est intitulé « La condition policière », j'imagine que tu vas nous en reparler, « Exercice de pouvoir et mode de surveillance en littérature narrative ». Et enfin, Laurence Perron est l'autrice d'une thèse en sémiologie et en littérature comparée, et elle mène actuellement un projet postdoctoral sur la représentation des violences de genre dans les espaces juridiques et littéraires. dans le cadre du laboratoire L'Art en procès de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle travaille avec moi, mais aussi avec Isabelle Boisclair. Et elle collabore également en tant que critique et essayiste aux revues Lettres québécoises, Moebius, L'Inconvénient, Panorama, Cinéma et Spirale, dont elle a assuré l'édition web ces dernières années. Et elle est actuellement éditrice de la revue Liberté. Donc la publication de sa thèse est prévue pour 2024, qui est une thèse vraiment fascinante, qui s'appelle « Queeriser l'enquête ». J'imagine que tu vas peut-être en retoucher un mot. Tu vas en reparler un peu. Bon, bah parfait. Donc voilà les présentations générales faites. On va y revenir. Et justement, la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pourriez revenir sur des projets dont parfois j'ai cité l'intitulé rapidement, qui ont un lien avec la discussion d'aujourd'hui. Alors, vous voulez y aller comment? Dans quel ordre? Est-ce que je commence par Cassie, qui est la plus proche de moi?
Donc, petite présentation, peut-être des projets que je vais aborder par la suite, plus largement. D'abord, la condition policière, c'est effectivement un projet de recherche-création sur lequel je travaille en ce moment avec trois étudiants, étudiantes qui font partie de mon équipe. Et c'est un drôle de projet parce qu'il y a eu deux étapes à ce projet-là. D'abord, il était très théorique dans sa conception quand je l'ai proposé au FRQSC. Je voulais vraiment me pencher sur les textes narratifs pour déceler, au fond, des mécaniques qui font police dans les textes et qui passent habituellement par des procédés narratifs. Donc, il y a toutes sortes là, de manifestations de ce qui fait police et qui n'est pas une police, c'est-à-dire une représentation d'une figure policière, mais qui va faire police quand même dans le texte. Et là, je voulais vraiment partir de ce principe-là puis aller étudier ça dans les textes. Ce que j'ai fait pendant la première année, jusqu'à ce que j'en ai un peu marre d'être dans les textes où ce qui fait police est critique, ça tourne autour d'une vision de la police ou de ce qui fait autorité. Puis à partir du moment où on entre dans une seule vision, moi déjà, j'ai trop fait plaisir, j'ai tout de suite envie de déplier d'autres visions. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller chez les policiers et policières eux-mêmes, personnes qui sont dans un milieu particulier, qui m'est assez étranger, même si c'est un milieu qui m'attire, et d'aller à leur rencontre et donc d'aller travailler sur le terrain pour une fois à la rencontre de ces gens-là, et de les amener, eux, à s'interroger par le biais de notions littéraires, leur rapport qu'ils ont à la fiction dans leur travail, leur rapport qu'ils ont à leur propre perception d'eux-mêmes, de comment ils sont représentés dans les différents discours et aussi la part de récit qui traverse leur pratique. Je veux aussi parler de deux de mes œuvres de création, chose que je fais presque jamais, là, parler de mes textes de création. Donc l'équilibre que j'ai amené ici, où il me semble que la notion de loi se prête vraiment à une traversée de cette œuvre-là, qui se passe dans le milieu pénitentiaire, où au fond, un parti politique décide de révolutionner le monde des prisons, abolir les prisons collectives pour installer des cellules individuelles dans les cours arrière des citoyens et citoyennes à travers tout le Canada. Toutes sortes de dérives, évidemment, se mettent en place. C'était une façon pour moi d'aborder un discours éthique, politique, de le construire et d'essayer de voir qu'est-ce que ça pouvait être. Imaginer une politique où on donne la responsabilité à la population, au fond, de punir et surveiller les gens qu'on associe au mal. Puis l'autre projet, bien, c'est le projet sur lequel j'ai travaillé cet été qui va paraître à l'hiver prochain. Donc, je ne l'ai pas en main. Il existe juste parce que je suis en train d'y mettre les points finaux, mais c'est encore dans ces préoccupations-là de police et de loi. Donc, je vais en reparler. Et je crois que ça fait le tour. Alors, je te cède la parole pour la présentation de tes projets.
Moi, je vais parler surtout de ma thèse et de mon projet postdoctoral. Bon, Mathilde l'a dit, dans ma thèse, je travaillais sur l'enquête plus que sur la loi elle-même. Ça s'intitulait « Queeriser l'enquête, l'enquêtrice, une figure sémiotique, intermédiaire et intergénérique ». Ça fait beaucoup de mots de plus que trois syllabes. Concrètement, ce que je faisais, c'est que je m'intéressais aux manifestations de cette figure-là, de l'enquêtrice, dans des récits qui étaient rédigés par des femmes et portant sur des femmes. Ce qui m'intéressait, c'était de concevoir l'enquête sur le plan générique, c'est-à-dire c'est un enjeu ou un sujet qui est beaucoup abordé dans les études contemporaines, mais souvent sous l'angle interdisciplinaire. T'sais, l'enquête, ce serait quelque chose qui serait à la croisée des sciences sociales humaines et de la littérature. C'est un peu ce que font des chercheurs contemporains comme Laurent Demange ou Dominique Rabaté. Et moi, j'avais le goût d'imaginer qu'est-ce qui se passait si on l'envisageait de manière intergénérique, c'est-à-dire entre le roman policier puis la biographie. Donc, des textes qui sont pas des biographies, mais pas des romans policiers non plus, mais qui deviennent intelligibles parce que ces deux genres littéraires-là existent. J'en parlerai pas trop, mais je mettais aussi à profit les théories de l'intermédialité. Ça m'intéressait de voir comment, justement, la présence de l'image photographique, que ce soit une présence réelle ou ekphrastique, là, qu'on peut dire, c'est-à-dire sous forme de description, justement, participait là, d'un imaginaire de la procédure, de la preuve, de l'approbation. Je m'y intéressais vraiment Parce que mon postulat, c'était que l'hybridation des catégories génériques, ça permettait une forme de dénaturalisation des catégories. Hein. Ça me permettait de questionner leur présentation comme des essences. Puis c'est pour ça que je mettais à profit les théories queer pour travailler mes œuvres. Donc finalement, c'était pas des œuvres qui en elles-mêmes portaient un discours qui était queer. C'était moi qui tenais un discours sur ces œuvres-là à partir de ces théories-là. J'essayais d'explorer un petit peu là, leur potentiel heuristique pour parler de l'enquête. Puis je faisais ça sommairement là, à travers trois axes, donc la filature, la filiation, puis la fictionnalisation. L'idée, c'est ça, c'était de voir comment ces catégories-là, c'était des catégories d'imaginaire fortes, à la fois du roman policier et de la biographie, mais que les autrices de mon corpus les réinvestissaient en réactivant cet imaginaire-là, de ces deux genres littéraires-là, mais aussi en les rénovant un peu de l'intérieur, là. L'exemple que je donnerais, ce serait la filature, par exemple, hein, qui est vraiment un trope là, assez marqué là, du roman policier. Moi, ça m'intéressait de voir comment les autrices de mon corpus convoquaient cet imaginaire-là puis cette démarche d'enquête-là. Mais elles le faisaient aussi, par exemple, en réactivant tout l'imaginaire de la filature qui relève plus du tissage, de la couture, puis qui est associé à un imaginaire puis à des pratiques plus féminines. Bon. Puis évidemment, elles faisaient ce réinvestissement-là d'une manière critique. Donc, voilà pour la thèse que j'ai écrite, puis je parlerai un peu plus tard du rapport qu'il y a pour moi entre ce projet-là et la loi. Et mon postdoctorat, lui, il porte sur ce que j'appelais le genre du procès et le procès du genre. Et le titre, c'était « Remise en question queer des épistémologies juridiques et des normes de genre dans les représentations littéraires en procès et de procès ». Donc, moins de syllabes par mot, mais au final, un peu plus un titre à rallonge. Puis bon, sommairement, j'allais dire « je m'intéresse », mais « je vais m'intéresser », là, parce que ce postdoc commence maintenant, cet automne. Et donc, je m'intéresse aux récits littéraires de procès et de procédures judiciarisées qui raconte l'expérience d'individus queer face à la loi. Donc, il y a vraiment plusieurs cas de figure. Là. C'est à la fois des personnages qui s'engagent ou sont engagés dans une procédure judiciaire, mais parfois, c'est des avocats ou des avocates qui sont les narrateurs, les narratrices, ou des écrivains et des écrivaines qui font de la chronique judiciaire, par exemple, normalement, puis qui, là, soudainement, se lancent dans l'aventure romanesque là, pour le temps d'un livre. Peut-être une petite mise en contexte. Donc, en fait, les personnes minorisées dans le sexe puis dans le genre, elles font face, on le sait, à des problématiques légales que ne vont pas nécessairement rencontrer la majorité des individus dont l'expression de genre ou l'identité de genre est conforme avec la norme. À la fois, la loi va réguler beaucoup les pratiques sociales comme le mariage, le divorce, et donc ça concerne aussi des questions de désir, de couple. Mais aussi, la loi n'est pas forcément mise à profit comme adéquatement pour défendre les intérêts de ces personnes-là dans plusieurs situations où leur intégrité physique ou psychologique est compromise. Donc, ces réalités concrètes-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les répercussions qu'elles ont au sein de la mise en scène littéraire, soit de l'exercice de la loi, soit de son inaction. Puis pour mener cette étude-là, je combine là, deux approches. Je fais comme un petit mélange entre sociocritique, donc c'est-à-dire j'analyse les représentations du social puis de la socialité dans les textes, donc de ce que je viens de dire, là, de ce contexte-là, de comment ils se répercutent dans l'écriture, mais aussi poétique, c'est-à-dire ce qui m'intéresse vraiment, c'est les stratégies formelles qui sont utilisées par les auteurs et les autrices pour faire la critique de cet imaginaire social-là. Je prolonge un peu les recherches que j'avais menées dans ma thèse thématiquement. Je passe de l'enquête au procès, donc je reste dans un imaginaire. La procédure judiciaire, c'est deux affaires qui sont différentes, juger ou enquêter, mais c'est deux activités qui sont liées à l'exercice de la loi, à l'acte de juger, à la notion d'investigation. Et méthodologiquement aussi, parce que je me penche sur ces textes-là, encore une fois, en utilisant les théories queer.
Donc, c'est mon tour. Donc moi, mes projets qui touchent la loi, c'est un peu embêtant au début, c'est la première question, puis c'est une question que je trouvais déjà embêtante, comment intégrer la loi, disons, aux questions que je pose. Et je suis content, là, aujourd'hui, je vais pouvoir l'approfondir. C'est une question, disons, que je ne me pose pas de façon centrale. Bien, je la pose avec un premier projet qui est celui de l'imaginaire de la dette, que je nomme l'imaginaire de la dette. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet, donc, de recherche que je mène depuis un certain temps déjà. C'est un postdoc. Maintenant, c'est mon projet de recherche pour les prochaines années. L'imaginaire de la dette, d'abord, c'est une question que je pose. Qu'est-ce que ça signifie, la dette? Je tords un peu l'expression de Bourdieu, hein, ce que s'endetter veut dire. Hein, c'est la question que je pose généralement pour pouvoir illustrer ce qu'est mon imaginaire de la dette. Et donc, l'imaginaire de la dette n'est pas les diverses représentations de la dette, c'est l'ambivalence constante de la dette. On ne sait jamais ce que signifie être en dette, notamment parce qu'on ne sait jamais dans quel système on est en dette, selon quels critères on est en dette. Et c'est vraiment ça mon projet, disons, d'un point de vue théorique. Après, ben, un peu comme Laurence, je parle depuis la sociocritique. critique, la théorie, elle doit s'incarner dans un corpus. Et mon corpus, ben, c'est peut-être pas le corpus le plus sexy, hein. C'est la littérature québécoise avant 1960, et notamment le roman du terroir. Donc moi, la représentation de la loi, c'est souvent un vieux notaire qui a pas grand-chose, disons, à nous apprendre peut-être, mais qui, par sa passivité et par le fait qu'il est quasiment un personnage, donc, qui ne fera pas d'action. Ce n'est pas un plaideur comme l'avocat, ce n'est pas un policier avec sa matraque. C'est donc un homme dans sa maison qui fume sa pipe et qui regarde dehors. Ce personnage de notaire, je l'analyse très peu finalement, mais c'est peut-être le seul représentant de la loi dans cet imaginaire de la dette. C'est celui qui écrit les contrats de créance, c'est lui qui va rédiger les quittances, c'est lui qui a finalement un certain pouvoir sur la vie des gens dans leur rapport à la dette. Et c'est lui aussi qui va voir d'un drôle d'œil les dettes qui lui échappent, hein, les dettes qui sont communautaires, donc les dettes qui ne sont pas inscrites dans un système impersonnel, celui des banquiers. Mon corpus, donc, s'échelonne de 1840 à 1960. Je vous parlerai aujourd'hui de Charles Guérin, notamment, et de La Squine. J'ai plusieurs œuvres qui m'intéressent tout particulièrement. Puis peut-être pour terminer cette présentation de l'imaginaire de la dette, je pourrais dire qu'il y a une amorce de l'imaginaire de la dette qui vient du 19e siècle et qui me permet d'articuler ensemble qu'est-ce que la dette ou quel est l'intérêt de penser la dette et pourquoi poser la question de la dette à la littérature. Parce que, je veux dire, la littérature a-t-elle un savoir sur la dette? Ça reste quand même une question qu'on peut se poser. Et donc, il y a un corpus au 19e siècle qui m'a permis d'unir ensemble l'imaginaire de la dette ou l'idée de poser une question à la dette à la littérature, et c'est trois grands écrivains du 19e siècle qui ont fait des faillites monumentales. Donc, Philippe Aubert de Gaspé, qui a écrit Les Anciens Canadiens et ses mémoires, c'est Les Anciens Canadiens est le plus grand roman du 19e siècle. Il n'en faut pas beaucoup pour être un grand roman du 19e siècle québécois, vous me direz-vous. Ça reste un roman qui est habité par cet esprit de la dette, parce que donc Philippe Aubert de Gaspé est allé en prison près de 4 ans pour dette. C'est pour se refaire un nom que des années plus tard, il écrira Les Anciens Canadiens, où est-ce qu'il se refera une identité. Et donc, la dette hante un peu son œuvre. Ensuite, il y a Octave Crémazie, le numéro 2, si on veut, de la littérature canadienne, donc ami d'Henri Raymond Casgrain, qui, dans l'arrière-boutique de sa librairie, a fondé à peu près la littérature canadienne comme projet. Il s'adonne que Octave Crémazie était un très mauvais commerçant qui faisait venir des fromages gruyères hors de prix que personne ne pouvait s'acheter et qu'il essayait de vendre et qu'il perdait ou qu'il mangeait, sait-on, des parapluies de Paris, des œuvres que personne ne voulait acheter. Et donc, il fait une faillite, lui aussi, monumentale. Mais à l'époque, on n'avait pas le droit de faire faillite. Hein. Faire faillite, c'est se mettre à l'abri des créanciers. Ben là, on pouvait pas, on allait en prison. Donc, Crémazie est mort en exil, il a fui en Europe, où il a fait le gros de son œuvre, finalement. C'est un horrible poète, hein, Octave Crémazie, mais le gros de son œuvre, c'était des lettres qui expliquaient donc, son regard sur le Canada et qui étaient teintées par l'esprit de cette dette. Et enfin, donc, Louis-Antoine Dessaules, un peu moins connu, qui est un des présidents de l'Institut canadien les plus célèbres, qui a attaqué le clergé durant toute sa carrière, et qui a décidé de prendre tout l'argent de sa seigneurie, le dernier seigneur de la seigneurie de Saint-Hyacinthe, qui est devenu la ville de Saint-Hyacinthe. Il a pris tout cet argent-là pour l'investir dans des mines qui ne sont jamais faites, des chemins de fer qui ne sont jamais construits, et donc il a fait une immense faillite, et il en a voulu au Canada d'être en retard sur le capitalisme. Et il l'a écrit sur des lettres et des lettres et des lettres qui vend à la monde, a mis en place. Et donc, il y a un esprit pour moi qui unit à ce moment-là la dette et la littérature, parce que ce sont des gens qui utilisent la littérature pour parler de la dette et qui ont fait une faillite qui est liée à la littérature d'une certaine manière et qui le justifieront comme ça. Donc ça, c'est mon projet principal dont je parlerai aujourd'hui. Je vais peut-être dire un mot d'un autre projet que je vais décrire très rapidement, Mathilde l'a mentionné, c'est mon travail de critique interventionniste, hein, donc un travail d'enquête sur des romans où est-ce que finalement, il n'y a pas vraiment de tension policière, mais où la lecture policière, donc c'est moi qui l'apporte. C'est ce que j'ai fait avec Thomas Carrier-Lafleur en lisant Maria Chapdelaine et en essayant de voir comment est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir un roman policier dans un roman du terroir, un roman policier en absence de policiers, en absence de personnel policier. Et donc le personnel policier, c'était devenu nous, les lecteurs. Donc voilà, puis c'est une démarche, disons, que j'essaie d'étendre à d'autres œuvres. En ce moment, je travaille un peu sur Madame Bovary.
Merci beaucoup. Alors maintenant, ce que j'aimerais vous demander, c'est de revenir sur ce mot-là de loi qu'on a décidé de mettre en avant. On parle aussi parfois d'autorité, mais vous pourrez revenir peut-être sur cet autre terme-là. Mais cette loi-là, comment est-ce que vous la définissez dans vos différents projets? Qu'est-ce que vous entendez par loi? Et puis peut-être aussi, comment est-ce qu'elle s'ancre dans la littérature? C'est-à-dire, quelles en sont ses figures ou peut-être même ses absences? David, tu parlais tout à l'heure du notaire comme une semi-absence, si je comprends bien. Est-ce qu'on recommence dans le même sens? Cassie, tu veux bien commencer?
C'est une grande question quand même, la question de la loi, parce que quand on s'en parlait au tout début, ben, on le ramenait vraiment à quelque chose de très juridique. Et on a réalisé les uns les autres que c'est très peu ça qu'on étudiait tout un chacun ou ce sur quoi on travaillait. Donc, On essayait de comprendre la loi en la sortant du juridique, en essayant de la comprendre à partir de nos projets. Donc, je ne sais pas si moi, vraiment, je vais faire une définition de la loi. Je ne crois pas, en fait, que je vais faire une définition de la loi. Et pourtant, je trouvais que c'était un peu le mot qui était le plus juste pour englober tous les points de tension qui traversent mes livres ou mes recherches. Puis c'est vraiment dans l'espèce d'expression de ce qui fait loi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vraiment une loi ou une prescription très précise, mais cette espèce de sentiment de quelque chose qui domine, qui est plus fort, qui s'impose et qui, au fond, va faire taire ou étouffer toutes sortes d'autres structures. Et donc, on est forcément dans quelque chose qui est de l'ordre d'une hiérarchie, parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort qu'autre chose. Et dans ces rapports de force-là, ben moi, je réalise que tous mes travaux depuis mon enfance, au fond, mettent en marche des questionnements sur les rapports de force. Mais je dis ça en riant, mais en même temps, mon prochain projet est forcément une autofiction qui va revenir sur la trace des rapports de force qui sont là depuis mon enfance. Donc, c'est pas complètement faux non plus. Donc, je m'intéresse depuis très, très longtemps à ce qui fait loi. Je m'intéresse à ça parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Donc, évidemment, ce qui nous dérange, c'est souvent la zone où on se met à vouloir essayer d'expliquer quelque chose pour peut-être être moins dérangé et être plus heureux. C'est-à-dire ce qui, dans le discours, de même que dans la manière qu'on a de raconter ou de se raconter, s'érige en loi, s'impose et va dominer. Donc, je passe vraiment par le biais du discours ou du récit, donc du narratif. Alors, soit dans les récits, ce qui va arriver à dominer ou à faire loi. Puis quand je dis discours, c'est que je trouve que c'est aussi, au fond, si je suis en littérature puis je travaille les textes par leur narration, ça exclut pas tous les discours sociopolitiques, judiciaires qui rejouent ces mêmes types de stratégies. Donc, discours et récit, pour moi, donc il y a cette manière de faire loi. Bon, dans le projet La condition policière, c'était enfin un lieu où je pouvais faire face à cette question-là vraiment directement et non de biais comme je le fais dans mes créations. Alors directement, c'était de m'intéresser à ces discours-là, à ces narrations-là où quelque chose fait loi. Et par ailleurs, à la littérature et à la création, parce qu'elles engagent en termes d'attitude critique. Ce qu'elles engagent comme revers à cette fabrication de la loi, comme stratégie compensatoire, comme moyen de dissolution, de contestation de ce qui fait loi, en les mettant en marche par ailleurs. Donc, elles les mettent en marche pour mieux les contester ou les dissoudre par le biais de certains conflits qui sont mis en place dans les œuvres, par des mécanismes sociaux et psychiques qui font système et qui vont participer donc à la fabrication de la loi et à la défabrication de la loi par le même geste littéraire. Donc, c'est un peu cette préoccupation-là qui m'habite, cette préoccupation critique là, dans laquelle je pourrais ranger toutes mes œuvres de création. Puis c'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi ne pas en parler alors que je le fais jamais? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment dans la création où, pour moi, ça se déploie le plus clairement et de manière la plus efficace. Alors que dans la recherche, je suis tout le temps en train de tâtonner, de remettre en question, de changer de méthode, de passer d'une méthode à l'autre. Dans la création, il y a vraiment quelque chose qui... une structure qui s'établit puis qui essaie de faire preuve en elle-même, comme si mes œuvres étaient une preuve de quelque chose de théorique que j'essayais de construire et que j'arrivais à prouver par le biais de la création. Bon, ça, c'est mes lubies à moi. Là, c'est pas nécessairement comme ça que les lecteurs et lectrices reçoivent les livres, là, mais je l'espère. Donc oui, il y a de ça dans mes recherches et mes enseignements, mais je range vraiment mes œuvres sous le spectre de l'autorité, où la question de la loi va se matérialiser en se métaphorisant d'une certaine manière, par l'enveloppement d'un fort appareillage réflexif, je crois, dans à peu près toutes mes œuvres, réflexif et philosophique, où on essaie d'aborder des questions éthiques, en passant par toutes sortes de procédés. Dans La valeur de l'inconnu, c'était des procédés théoriques. Ici, on est vraiment dans un discours politique que j'essaie de construire pour tirer des fils sur les questions de responsabilité, de surveillance. Et aussi, bien, par un éclairage, par la forme, là, c'est toujours important pour moi de m'interroger sur quel choix formel crée quel effet et qui vont aussi dans le sens de faire loi ou dans le sens de contester ou dans le sens d'interroger ces mécaniques-là qui seraient propices à exposer des tensions capables, il me semble, beaucoup plus, en tout cas dans mes œuvres de fiction que dans mes recherches théoriques, de viser directement les affects, de viser directement nos zones de sensibilité problématiques, nos sentiments hostiles, pour reprendre le terme d'Alexis. Toutes ces espèces de lieux où on est comme plus ou moins en adéquation avec nos valeurs parce qu'on est dans des émotions difficiles comme la honte, la colère, la haine. C'est ce qui se traverse souvent plein de structures qui font en sorte qu'il y a des forces en marche qui essaient de piétiner d'autres forces. Ce que j'essaie aussi de faire dans mes créations, c'est de destituer le regard qu'on a souvent sur les choses, qui est d'abord figé, préformaté, et de faire en sorte de créer sur le plan narratif des destructions de ce regard-là. D'abord en le créant, ce regard-là, en l'amenant dès le départ, puis en trouvant toutes sortes de méthodes, de dispositifs fictionnels pour l'effriter de plus en plus au fil de l'œuvre, et à la fin, on se retrouve complètement dépourvu. La plupart du temps, pris entre plein de visions, versions, indices. Et ça, à mon sens, c'est le lieu même du multiple et de la démocratisation des visions qui redonne, j'espère, un souffle au lecteur, même si souvent les lecteurs se sentent plus dépourvus que jamais. Au fond, ils sont plus libres, je pense, que devant une version, un regard qui serait figé, qui serait quelque chose qui leur serait dicté comme une loi. Ça va passer par des procédés impossibles. Par exemple, dans mon roman que je viens de terminer, qui s'intitule « Congé », j'ai choisi une narration impossible. C'est un roman qui est narré par une narratrice morte. Au fond, même si ça a l'air étrange, je pense qu'on y adhère aisément parce qu'elle nous permet justement, cette narratrice-là, par le biais de la fictionnalisation d'une voix qui est impossible, de faire un pas de côté par rapport au présent qui est observé par la narratrice qui est morte il y a une centaine d'années et qui nous renvoie toujours dans le passé, qui nous renvoie à comme une vision très affectée des choses et du présent. Et surtout une vision qui est dans la méprise, c'est-à-dire qu'on a l'impression, parce qu'on est en présence d'une narration morte, qu'elle est potentiellement omnisciente et qu'elle comprend tout, mais en fait, elle n'arrive pas à avoir vraiment accès au personnage sur lequel elle focalise. Il y a tout un débalancement qui est créé dans la présence du personnage sur lequel elle focalise, qui est, surprise, une policière. Mais une policière, et non la moindre, une policière qui est en congé. Alors ça, c'était très, très important parce que dans le projet La condition policière, à force d'interroger des policiers et policières sur leur perception de la représentation des policiers et policières, on en venait au constat qu'ils sont toujours surchargés, ils n'ont pas de vie personnelle dans les représentations. Alors que moi, je parle à des humains qui ont des enfants, des vies personnelles et beaucoup d'autres préoccupations que leur emploi du temps et les enquêtes qu'ils mènent. Et je me disais, mais mon Dieu, on n'aperçoit jamais de policiers et policières dans les romans ou dans les films qui sont en train de rien faire. Alors moi, je vais écrire un roman où ma policière est en congé et où elle fait absolument rien qui concerne quoi que ce soit qui concerne la police. Mais en même temps, c'est complètement faux parce que finalement, tous les signes ont l'air de devoir mener à des enquêtes et elle résiste à tout ça pendant tout le long du roman. Mais la narration morte vient un peu contrecarrer tout ça. Donc là où je disais qu'il y a un désajustement, c'est qu'on a accès à un personnage qui devrait représenter la loi et l'enquête et mener ça, et à un personnage complètement impossible qui représente le surnaturel et quelque chose d'un peu dans le non-sens, dans le désordre vis-à-vis de l'ordre. Et au fond, celle qui devrait représenter l'ordre ne le fait pas, et celle qui représente comme un peu l'envers de l'ordre nous amène sur la trace d'une enquête. Donc voilà ce que j'ai à dire pour l'instant sur ce roman qui est donc en route. Je disais que ça passe par des procédés impossibles, des dispositifs de fiction par lesquels, au fond, mon projet, c'est d'amplifier, d'empirer, de déborder de la logique de manière à étudier comme à la loupe de l'enquêteur. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment des enquêteurs qui utilisent des loupes? Donc, comme à la loupe, par grossissement. C'est vrai que tous mes livres, au fond, grossissent des situations. Ça n'a aucun sens d'installer des cellules dans les cours arrière des citoyens et citoyennes, OK? Même si les personnages sont convaincus que ça a du sens, c'est un système qui ne fait pas de sens, qui est très gros, grossier. La narration d'une morte d'il y a une centaine d'années, c'est très gros. Ça ne fait aucun sens. Mais ça permet, par ce grossissement-là très absurde, d'explorer les dérèglements là, très comme minuscules, mais qui finissent par faire système et devenir systémique, justement, auxquels mènent tous les types de rapports de force et auxquels on ne cesse jamais nous-mêmes de prendre part à ces rapports de force-là. Et d'ailleurs, dans la littérature, pour moi, un des éléments qui est le plus intéressant à observer, bien, c'est le fait qu'il y ait une narration dans les textes narratifs, une voix narrative qui prend en charge carrément l'expérience à laquelle on a accès. Bon, c'est un peu par là, je dirais, que j'ai commencé à entrer dans ces questions-là. C'est dans ma thèse par les narrations non fiables, où, au fond, les narrateurs que j'étudiais dans les corpus, c'était des narrateurs qui, rapidement, parce qu'ils sont faillibles ou parce qu'ils sont menteurs et arrogants, on a rapidement envie de s'en détacher Et par ce détachement-là, on observe donc les textes d'un autre regard qui est comme beaucoup plus critique que quand on entre en adhérant totalement. Puis par cette mise à distance-là, ben déjà, on ouvre deux visions. Parce que les œuvres qui nous amènent une version plus figée ne mettent pas en marche forcément. Puis là, c'est vraiment pour ça, moi, que je trouvais ça très intéressant, ce phénomène-là, de narration non fiable, parce qu'il déployait déjà un deuxième regard. Et il nous permettait de clairement voir à quel point on est soumis à la voie narrative quand on embarque dans une expérience de lecture de texte narratif. On doit se compromettre sous cette vision-là et on n'a pas le choix d'avoir accès à l'univers par le biais de cette voie-là. Et c'est quelque chose qui est absolument dérangeant quand on y pense. Et au fond, on passe notre temps à lire des discours auxquels on doit adhérer, comme si on devait adhérer à des principes. L'intérêt des narrations non fiables, c'est justement de nous dire « là, il y a plein d'indices qui vous disent que vous ne devriez pas être en train d'adhérer à ça. Prenez un pas de côté. » Mais moi, ça a été un mode de lecture après que j'ai adopté dans tout. C'est que tous les discours, toutes les narrations, toutes les personnes qui me parlent, je me trouve à me mettre à distance et à me méfier de la parole et de tous les récits. Ça crée justement un dédoublement. Donc, il y a ce qui est offert, mais à laquelle je n'ai pas envie d'adhérer tout de suite parce que je déteste me faire dire comment penser. Je déteste me faire dire comment agir. Si on me dit comment agir, c'est sûr que je vais agir différemment. Donc, je pense que ça va de soi que les textes, je les reçois toujours en me disant « Non, ça, c'est ce que tu me dis, mais tu as des preuves là, à m'amener pour que vraiment j'adhère et que je croie à ce que tu me présentes. » J'ai commencé donc par les narrations non fiables, mais pour en venir à la compréhension que toute narration est l'imposition d'un regard, je pense qu'il faut faire avec. C'est pas si grave que ça, là, que ce soit l'imposition d'un regard. Il faut avoir conscience que c'est ce qui se passe, que c'est une perception, mais que dans la mise en marche de ce regard-là, au fond, il y a énormément de choses qui débordent et pour lesquelles on se retrouve dans un environnement où il y a un regard en surplomb qui fait des choix et qui choisit d'évacuer ce qui est autour. Et il faut toujours avoir conscience que ce qu'on est en train de lire, ben il y a énormément de choses autour qu'on n'est pas en train de lire, mais qui sont là quand même par leur absence. Donc pour moi, toute narration, c'est un exercice d'exclusion. Et c'est rare qu'on le voit comme ça, mais quand on le voit de cette façon-là, ben je pense qu'on peut comprendre mieux pourquoi. Je considère que toute narration est aussi un exercice de contrôle et d'ordre. Parce que les choix qui sont faits sont mis en place d'une façon, selon une construction, pour montrer quelque chose en particulier, pour dire quelque chose. Et déjà, dans tous ces choix-là, il y a de l'exclusion constamment.
Laurence, David, est-ce qu'il y en a un des deux qui veut y aller en premier?
Bien, je vais faire un peu, moi aussi, une espèce de pirouette là, pour me tirer de la question en me demandant moins.
On ne finira jamais la loi.
Non, c'est ça. Je vais moins parler de comment je la définis puis qu'est-ce qu'elle est pour moi, de comment je m'en sert ou comment elle est présente, soit dans mon travail, soit dans les œuvres sur lesquelles j'ai travaillé. Mais dans ma thèse, d'abord, ce que j'ai dit, donc, c'est que je travaillais sur des enquêtrices qui enquêtaient sur des femmes. Ces femmes-là, elles étaient des inconnues. Donc, inconnues d'elles, mais aussi inconnues du public, là, donc des anonymes. Je dis inconnues, mais dans la thèse spécifiquement, le mot que j'utilisais, c'était « infâme », parce que ça me permettait de jouer un peu sur la polysémie puis de décliner cette infamie-là. Parce que, bon, je disais donc au sens de non connu, hein, famant en latin, c'est fame, fameux, donc, et infâme, ce qui est non fameux, là, ce qui n'est pas connu, ce qui n'est pas célèbre. Mais l'infamie, c'est aussi ce qui est méprisable, ce qui est scandaleux, ce qui est abject. Hein. Dans une partie de mon corpus, c'est souvent des femmes criminelles ou, plus souvent qu'autrement, criminalisées. Bon, il y avait un texte sur Chicago May, qui est une Irlandaise qui a une espèce de légende noire parce qu'elle est immigrée aux États-Unis puis elle est devenue cambrioleuse. Elle est très peu connue, mais dans sa ville d'origine, elle a une espèce d'aura, là. C'est le croque-mitaine. Voilà. Ou encore Marion Dufaouette, qui était un peu une Robin des Bois bretonne, qui a un peu été élaguée là, de l'histoire de la Bretagne, mais qui figure un peu en note de bas de page. Il y a aussi une autrice, Anne Plantagenet, qui travaille sur une femme qui se nomme Lorca Horowitz, qui était une femme qui a fait un peu les manchettes en Espagne pendant un temps parce qu'elle a usurpé l'identité de sa patronne de manière à la rendre à peu près cinglée, puis elle a aussi siphonné les finances de cette patronne-là pendant ces années-là. Et donc, ça finit par obséder un peu l'autrice. C'est des femmes qui commettent des crimes. Mais aussi, c'est ça, des femmes criminalisées. Chicago May, par exemple, c'était avant d'être une cambrioleuse, elle exerçait la prostitution, donc elle a fait aussi de la prison pour cette raison-là. Parfois, c'était aussi des femmes défamées ou diffamées, c'est-à-dire des femmes qui avaient été célèbres à un moment, puis dont le discours qui les entoure avait fini par être négatif. Des femmes comme Barbara Loden, qui est une réalisatrice là, dont on a célébré un film seulement, puis dont on célèbre surtout le mari, là, Elia Kazan, qui a réalisé énormément de films, ou Greta Garbo, Paula Becker, donc respectivement une actrice et une peintre, un peu soit mise au banc de la société ou du discours historique dans les disciplines où elles ont œuvré. Donc, ce qui m'intéressait, c'était à la fois comment certaines de ces femmes-là sont enserrées par la loi au sens juridique, mais d'autres, les deuxièmes, c'est plutôt au sens de la loi morale ou de la loi du groupe, ce qui vise en fait à les exclure. D'autres exemples de ça, c'est Dora Maar ou la Castiglione, donc elles aussi des femmes artistes qui ont été construites comme étant périphériques à l'histoire de l'art. Dans ces textes-là, la loi, qu'elle soit morale ou légale, c'est vraiment le moteur de l'exclusion sociale des sujets qui sont biographiés par les autrices. Et là, ce qu'elles font, ces autrices-là, c'est qu'elles vont un peu à l'encontre de cette loi-là avec leur projet romanesque. Elles écrivent un contre-récit. Donc, elles sont en train d'enfreindre une forme d'interdit. Elles s'inscrivent dans une logique oppositionnelle, disons, par rapport à cette loi-là qui est perçue dans les deux cas comme un discours institutionnel. Donc, si j'avais à résumer, je dirais que dans le corpus que j'analysais, la loi, elle avait vraiment une posture, en tout cas, elle est envisagée de manière ambivalente. C'est-à-dire que c'était un obstacle à la vérité qu'on serait susceptible d'extraire là, en analysant la vie de ces femmes-là. Mais c'est aussi un outil de l'écriture, hein, parce que je l'ai dit, c'était donc des femmes inconnues des autrices, ce qui veut dire que pour parler d'elles, elles doivent immanquablement se fier à des sources de seconde main. Et ces sources-là, elles sont souvent juridiques. Bon, c'est souvent de la paperasse administrative, par exemple. Des archives. Donc, en même temps, la loi, c'est ce qui a, si on voulait reprendre les mots de Foucault, qui a enserré des individus. Hein, c'est-à-dire que les archives disponibles sur ces femmes-là sont souvent produites par la rencontre avec la justice. Donc, que ce soit, bon, parfois des procès criminels, comme je l'ai mentionné, mais parfois, il s'agit simplement de papiers de divorce, comme dans les romans de Nathalie Léger, par exemple, où elle s'intéresse à la fois à Barbara Loden puis au divorce de sa mère. Donc, les documents légaux, dans cette démarche d'écriture-là, c'est des sources qui sont considérées comme étant essentielles pour mener le travail d'enquête, mais il faut aussi obligatoirement les dépasser, avoir avec elles un rapport critique. Justement, en fait, ce sont des narrations qui exercent un contrôle sur qu'est-ce qui est dit puis comment c'est dit. Puis ça apparaît probablement de manière encore plus claire dans des textes, dans ce type de texte, dans ce type de document que dans un roman, même si, comme tu l'as bien montré, nous sommes contrôlés par les narrateurs qui nous entourent. Et donc, pour faire ça, pour avoir ce rapport critique-là à l'archive, les enquêtrices, ce qu'elles vont faire, c'est s'intéresser souvent moins à ce que contiennent ces documents-là qu'à ce qu'ils occultent, justement. Et pour faire ça, les autrices vont développer et déployer des tactiques d'enquête assez diverses qui vont mimer celles des détectives, mais qui vont aussi essayer de les dépasser, hein, c'est-à-dire de signaler leur insuffisance. Parce qu'après tout, ces documents-là, ils ont été souvent produits par des enquêteurs, des policiers. Et évidemment, ce n'est pas des documents qui font intervenir l'affect, l'imaginaire ou l'affinitaire. C'est là que le projet de l'enquêtrice va se développer, c'est-à-dire l'idée, c'est de réactiver un peu plus cette dimension-là de l'existence. J'emprunte à l'une de ces autrices-là, en fait, qui travaille sur une femme inconnue. Elle dit que ce qui l'intéresse, c'est pas que justice soit faite, mais que justesse soit faite. C'est un peu le néologisme qu'elle emploie. Donc, en fait, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de... Bien, je vais revenir là-dessus, peut-être, quand on parlera des éthiques de l'imaginaire puis des politiques de l'imaginaire, mais donc de pluraliser un peu la représentation. Donc, dans mon projet doctoral, la loi, c'était vraiment une instance qui produisait de l'injustice, mais qui produisait aussi de la documentation. C'était quand même commode de pouvoir s'appuyer sur ces textes-là. Dans le cadre de mon postdoc, je m'intéresse à la fois plus et moins directement à la loi elle-même, plus parce que le projet que j'ai déposé se penche sur des récits dans lesquels les personnages queer font l'expérience d'une rencontre, et souvent violente cette rencontre, avec la loi, des procédures ou des procès au sens large. Parfois, il s'agit vraiment de procès, parfois, il s'agit d'une déposition qui fait suite à une plainte, par exemple. Les œuvres de mon corpus, j'en donne quelques exemples, j'ai choisi les plus connues. On parle d'Édouard Louis, de Constance Debré, d'Alexandria Marzano-Lesnevich, de Maggie Nelson. Donc, c'est un corpus franco-américain. Et dans ce projet-là, mon intérêt et ma question de recherche, c'est vraiment, est-ce que dans ces textes-là, la question queer, elle va plus loin que le choix des sujets qui sont représentés? Puis est-ce que s'étend aussi aux stratégies de représentation? En plus, ça implique plusieurs types de stratégies possibles. Donc, dans certains cas, c'est des stratégies narratives, convocation de savoir situé minoritaire, la revendication d'une subjectivité assumée, la multiplication des points de vue et des voix narratives, par exemple. Des stratégies auctoriales, donc hybridation de la posture de l'écrivain et de l'écrivaine, de l'avocate, de la journaliste. Générique, parce que, c'est ma bibitte préférée. Hein, donc, l'hybridation de l'essai, de la prose, de la poésie. Ou encore médiatique, donc mélanger les pratiques iconotextuelles, aux pratiques littéraires, par exemple, donc intégrer du document filmique, des procès-verbaux, peu importe. Et enfin, épistémologique, donc, est-ce qu'il y a une volonté de brouiller l'écart, brouiller les frontières entre faits et fictions, entre documents d'archives et entre récits littéraires? Hein? C'est-à-dire, est-ce qu'on a l'intention de vraiment les départager de manière nette et précise? Donc, je disais plus proche de la loi pour cette raison-là, c'est-à-dire je m'interroge vraiment sur sa présence. Elle est activement présente dans les récits sur lesquels porte mon étude, mais aussi moins proche dans une certaine mesure parce que la loi, je m'y intéresse sur le plan théorique. En tout cas, je m'y intéresse dans la mesure où je me penche sur les rapports analogiques qu'il y a entre loi et genre, un peu comme je le faisais dans ma thèse entre genre littéraire et genre au sens de gender. Je m'intéresse peu au discours juridique lui-même, d'une part par affinité, mais aussi parce que je n'ai pas de formation de juriste. Hein? Mais je m'intéresse plutôt à son fonctionnement sur le plan de l'imaginaire, aux présupposés épistémologiques puis idéologiques qui la fondent, ou en tout cas qui la fondent dans nos représentations. La loi, dans ce contexte-là, je m'en sers comme d'une espèce de matrice interprétative, puis là, je l'utilise pour comprendre des comportements genrés, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des lois du genre? Ou est-ce que le genre fonctionne comme une loi? Hein, donc, c'est-à-dire comme une loi dans le sens où il fonctionnerait comme un ensemble de scripts, de textes implicites, plutôt que textes explicites de la loi, qui régissent, qui est ou non une forme de vie qui est admissible ou lisible. Donc, en fait, est-ce que le genre, comme la loi, c'est une forme de régulation? Puis si oui, dans quelle mesure on peut faire des parallèles? Où ces parallèles-là peuvent nous mener? Où est-ce qu'ils s'arrêtent aussi? Parce que l'idée, c'est pas de dire que c'est exactement la même chose, mais de voir comme, qu'est-ce qui se joue quand on les fait dialoguer. Donc, mes interrogations, c'est des choses comme comment le concept de loi en tant que métaphore structurante de la pensée traverse le discours queer. Hein. C'est un mot qui est souvent utilisé, par exemple, chez Butler pour parler de ces prescriptions sociales-là qui normativisent les comportements. Je vais aussi me demander comment les notions de performance et de performativité qui, elles, jouent un rôle crucial dans les théories queer pour penser le genre, pointe aussi ce qui est à l'œuvre parfois dans une cour de justice. Hein. C'est-à-dire que si on pense aux questions de jurisprudence, si on pense à la façon dont le common law se construit, bien, c'est une pratique qui est citationnelle. Hein. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les comportements, disons, si on fait le parallèle, qui ont été adoptés précédemment pour savoir comment légiférer dans une situation qui est similaire. Je me demande aussi c'est quoi les liens qu'on peut établir entre loi et genre sur la base de leur caractère prescriptif conventionnel. Parce qu'une des choses qui est, bien, là, je l'ai dit, le common law, c'est un texte qui est construit par les pratiques, donc qui a un caractère prescriptif, ce qui veut dire en fait que la loi, il y a une dimension de la répétition qui est importante, qui se joue dans l'exercice légal, et c'est aussi le cas quand on s'intéresse aux théories queer, c'est-à-dire la notion de répétition comme façon de légitimer en fait certaines pratiques, la façon de les instaurer comme étant des essences plutôt que des comportements, c'est central à ces théories-là, et c'est ce qui détermine la légitimité de certains individus ou de certains vécus par rapport à d'autres. Donc, c'est un peu les questions que je veux me poser. C'est encore en démarrage, avec l'aide de Mathilde, on va espérer que ça devienne un projet qui se déploie sous plusieurs formes. Et puis, sinon, je dirais que dans le cadre de ce projet-là aussi, et de manière plus peut-être personnelle, ou en tout cas par intérêt personnel, je m'intéresse beaucoup récemment au lien entre queer et criminalité, illégalité, que ce soit dans des projets académiques ou plus extra-académiques. En fait, plus spécifiquement, je m'intéresse de moins en moins à la question de la criminalisation de l'homosexualité. Puis ce qui m'intéresse surtout, c'est la manière dont la littérature et le cinéma vont mettre en scène des personnages queer et criminels qui trouvent de la joie ou de la jouissance dans l'investissement de ces rôles-là. Donc, des personnages queer qui trouvent dans le crime une forme d'agentivité, qu'elle soit politique, sexuelle ou les deux. Et donc, ça passe par des artistes qui s'interrogent ou qui mettent en scène des personnages pirates, prisonniers, meurtriers, terroristes, cambrioleurs. Donc, j'ai quelques petits projets là, qui vont dans ce sens-là, dont un ciné-club que je suis en train de fonder, donc qui va s'intituler « Queer en cavale », et en fait dans lequel je vais présenter des films dans lesquels on assiste justement à l'entrée dans le crime de personnages puis qui trouvent une forme de sens. Oui, ça sonne un peu cucu dit de même, là, mais ouais, c'est ça. Donc, des films comme ceux de Bertrand Mandicot, de Bruce Labrousse. C'est vraiment un pet project qui me tient à cœur. Voilà.
À toi, David.
Oui, donc moi, contrairement à Cassie et Laurence, j'avais une définition super claire de ce qu'est la loi. Mais c'est ma façon d'introduire le fait que j'ai oublié mon texte. Et donc, je vais faire une présentation qui s'appuie sur un texte, mais dont le texte est absent. Ce qui est un peu embêtant dans l'optique où est-ce que je travaille avec la sociocritique. La sociocritique s'appuie sur des textes, sur des citations, et cherche le sens depuis le texte. C'est exactement comme ça que fonctionnait ma présentation. Évidemment, je n'ai pas la mémoire nécessaire pour pouvoir aller rechercher les citations et vous vous les citer de mémoire. Donc, j'ai transformé un peu ma présentation, mais vous verrez, là, j'espère que ça fonctionnera. Mais comme Cassie et Laurence l'ont dit également, pour moi, la loi, donc, est importante dans mes projets par son absence. Et c'est vraiment important que la loi soit absente, ou disons qu'elle manque dans les romans que j'analyse, dans l'optique où est-ce que c'est ce manque-là qui me permet, moi, le jeu de l'analyse. Je l'ai dit tout à l'heure, je m'intéresse à la figuration de la dette. La dette, une fois qu'elle est construite dans la loi, qu'elle est intriquée dans la loi, elle est très claire. On sait ce qu'est une dette une fois qu'elle est dans un contrat. Or, moi, c'est quand la dette n'est pas en contrat. C'est quand elle dépasse. C'est quand elle est informelle, c'est quand elle est familiale, que là, j'ai du jeu pour l'analyse. Tout particulièrement, je dirais, on le voit dans le roman du terroir, dont un des premiers, donc de 1846, le très apprécié Charles Guérin de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, hein, le premier ministre du Québec, de la province de Québec après la Confédération. Dans Charles Guérin, on voit ça à l'œuvre de façon assez patente. Hein. C'était la citation sur laquelle je voulais m'appuyer. Je vais essayer de plutôt vous en décrire l'esprit, hein, pour vous faire comprendre comment cette absence de la loi est analysable ou est appréhendable. Donc, pour vous mettre peut-être en contexte, parce que c'est un roman qui est extrêmement important dans l'histoire littéraire, mais qui est étonnamment non édité. Hein. Donc, vous êtes obligé d'aller chercher une vieille édition Nénuphar ou le retrouver en ligne ou l'emboîter à la bibliothèque, mais il n'est pas édité. Vous ne pouvez pas l'acheter neuf. Hein. C'est juste impossible, ce qui est assez étonnant. Il va falloir corriger cette situation-là. Mais au-delà de ça, donc, dans ce roman-là, Charles Guérin est un personnage, est un jeune homme, et il vit dans l'ombre de son père qui est décédé dès le début du roman. Son père était un homme d'affaires, on comprend, et lui, il veut, donc, Charles Guérin, répondre aux désirs du père en devenant avocat. Et donc, il étudie le droit, mais il n'a aucune conviction et aucune véritable volonté d'étudier le droit. Et il y a cette scène, donc, qui se passe dans le premier tiers du roman, où on voit, donc, le personnage de Charles Guérin qui est à l'étude et qui est endormi. Et on voit les lois civiles de Donna, qui est comme le gros livre, la somme, donc, du droit français, qui est ouvert. Et sur le dessus, il y a d'ouvert les martyrs de Chateaubriand. Et donc, cette scène donc, est décrite en quelques lignes, et très vite, donc, la narration de Chauveau nous dit hein, que tout se passe comme si, et là je me souviens de ce passage-là de la citation, la poésie avait eu le dessus sur la jurisprudence. Et donc, dans cette scène-là, je ne veux pas l'analyser donc, outre mesure, mais ça reste que tout le roman fait fond sur l'idée que Charles Guérin, dans son roman, était contraint par la loi, par l'étude de la loi, mais il désirait la poésie, il désirait la littérature, et c'est son désir pour la poésie et pour la littérature, qui l'amènera à développer un amour romantique pour une femme. C'est ce désir-là qui va l'amener à être imprudent dans ses choix, et c'est de là qu'elle va arriver l'immense faillite qui va emporter toute sa famille. Donc, l'idée de la poésie va ici très clairement s'opposer au droit comme correction, comme façon responsable d'agir, comme façon responsable d'organiser sa vie. Dans un chapitre donc particulièrement moraliste, hein, Chauveau est moraliste à 16 heures, ce qui explique peut-être aussi sa non-réédition, on nous explique assez bien comment finalement s'oppose, je ne sais plus le terme, je crois que c'est la responsabilité de l'homme ou un truc comme ça, au caprice. Et donc la poésie, la littérature est conçue comme le caprice dans Charles Guérin. L'analyse de cette scène-là est assez simple parce qu'elle est faite par le roman lui-même, et moi j'aimerais faire un pas de plus, et c'est là où est-ce que ça devient intéressant en fait. Et ce pas de plus, je le ferai avec donc un penseur qui est un peu oublié aujourd'hui, un Ferdinand Tunis, qui est un penseur de la fin du 19e siècle, un Allemand, un contemporain de Max Weber et de Georges Simmel, là. Ils se sont commentés les uns les autres. Et Tunis avait une opposition qui me semble particulièrement productive pour analyser mon corpus, notamment ici Charles Guérin, mais d'autres œuvres également, c'est cette opposition entre la communauté et la société. Donc, pour Tunis, il y a ces deux grandes catégories qui permettent de parler, disons, les liens qui unissent des gens ensemble, des liens de communauté ou des liens de société. L'opposition est très didactique. Pour Tunis, la communauté, c'est un lien qui est organique et qui est lié à la vie réelle. Et donc, on est dans quelque chose de clair, de familier, d'évident et qui fonctionne par la pratique et par l'usage. Il n'y a pas de règles préexistantes. On est vraiment dans la vie réelle telle qu'elle se déploie. La communauté pour Tunis, donc, elle trouve son ancrage dans les clans archaïques, donc l'idée du clan de sang. Donc, la première communauté, c'est la famille. C'est de la communauté de la famille que peut se déployer les deux autres communautés, qui est la communauté de lieu et la communauté d'affection. Donc, si on suit bien, la première communauté serait la famille, la deuxième, celle de lieu, ce serait le voisinage, et la troisième, celle des affections, l'amitié. Donc, ces communautés fonctionnent, non pas selon des règles impersonnelles, mais selon donc, un rapport de proximité, d'usage, d'appréciation. La société, quant à elle, n'est pas organique, elle est mécanique. Elle est érigée sur des lois, elle est la loi, la société, Elle est fondée sur des contrats, elle est fondée sur des conventions écrites. La communauté reconnaît la valeur d'un individu sur sa sagesse. C'est quelque chose de très imprécis, la sagesse, alors que la société, c'est dans la position institutionnelle ou la position sociale. Donc, on est vraiment dans deux mondes qui sont extrêmement opposés et qui me semblent à l'œuvre ou lisibles dans mon corpus, celui du 19e siècle et du 20e siècle québécois, comme quoi la loi est constamment repoussée ou constamment ignorée dans ces romans-là comme fait de société. Et donc, il y a une valeur à repousser cette loi-là, c'est d'affirmer la communauté. Donc, on ne rejette pas la société pour la société, on valorise la communauté en rejetant l'impersonnalité de la société. Comment ça s'articule dans un roman comme celui de Charles Guérin? Je vous ai mentionné que Charles Guérin et sa famille faisaient faillite parce que Charles Guérin donc, se laissait emporter par la beauté et la légèreté et donc le caprice de la poésie, de la littérature. C'est évidemment plus compliqué que ça, hein? Je vous rassure, ce n'est pas en étudiant la littérature que vous faites faillite automatiquement. Il y a un processus. Le processus ici, il prend la forme d'un protestant hein, qui est le représentant de l'esprit capitaliste à la Weber. Le protestant s'appelle Wagner. Et donc, ce personnage de Wagner arrive dans le village. Il trouve que la rivière à côté de chez les Guérin, elle est particulièrement propice à la construction de moulins, et là, il n'a qu'une volonté, c'est d'exproprier ces gens-là, et il le fait assez facilement en rachetant toutes les dettes des Wagner qui deviennent trop lourdes pour eux et en les faisant peser donc sur la famille et en donnant Clotilde, sa fille, à Charles Guérin comme étant la promesse d'un amour romantique. Et c'est à partir de cet amour-là que Charles Guérin va se compromettre en faisant une signature qu'il ne devait pas faire, donc avoir la dette de trop, et de cette dette de trop vient toute la faillite. Et donc, le personnage de Wagner est cet esprit capitaliste qui connaît les lois. Il est présenté comme celui qui connaît les lois, alors que les autres sont clairement des ignorants. Hein? Tout le monde est ignorant dans la petite communauté du village des Guérin. Et Wagner est vraiment en colère contre cette ignorance, parce que la première chose qu'il doit faire, c'est racheter des dettes. Il y a des gens qui refusent, hein? Des riches paysans, des riches habitants, devrait-on dire, qui refusent de vendre leurs dettes à Wagner en disant « Ben non, mais c'est des bonnes personnes, les Guérin, donc je ne vais pas vous vendre la dette. Moi, ils ont toujours été là, puis s'ils ne me remboursent pas, ce n'est pas très grave. Hein? » Et donc, Wagner doit casser la communauté avec la loi. La loi s'oppose donc aux liens de solidarité et aux liens évidents qui unissent les sujets du village. Donc ça, c'est un exemple, disons, sur lequel je pourrais ancrer cette image de la loi comme étant un fait de société, impersonnel, celle du monde des banques, celle du monde donc des contrats également. J'ai un deuxième exemple pour l'illustrer que je tirerai donc d'un roman par nouvelle de 1918, La Squine, hein, plus connu peut-être ou plus lu aujourd'hui que Charles Guérin. C'est le chapitre 9 de ce roman. Les chapitres sont à peu près indépendants. Là, si vous avez lu La Squine, vous vous en souviendrez. Et donc, c'est le chapitre où est-ce que La Squine, le personnage de La Squine, s'en va donc au bureau de poste et elle revient donc avec un petit papier jaune dans lequel il y a les comptes du magasin général des Lynch, hein, la famille Lynch qui ont le magasin général. Et donc, le compte est immense, comme si les Deschamps, qui sont les personnages principaux du roman, avaient acheté à crédit plein de choses, notamment cette extravagance qui est 4 paires de bottines. Et donc, les Deschamps sont extrêmement en colère et le père Deschamps hurle « la canaille », il déchire le compte. Et tous les habitants reçoivent la même journée un compte aussi extravagant et la plupart, donc, refusent de le payer, le déchirent et disent « ah, les Lynch, c'est pas des bonnes personnes, on est en colère ». Et donc, quelques semaines plus tard, raconte le chapitre, on se met à crier dans le rang « le bailli, le bailli ». Un homme arrive avec sa charrette. Et donc, le bailli, effectivement, arrive. Il n'est pas le bailli parce qu'on n'est pas dans l'Ancien Régime, c'est un huissier. Et il arrive donc avec des papiers judiciaires, nous dit-on, et c'est donc une poursuite de la part des Lynch qui poursuivront tout le village, un par un, obligeant donc les habitants à engager des avocats de la ville, donc à se faire enfiroiper par les avocats de la ville d'une part, et d'autre part en perdant le procès, donc en se faisant enfiroiper ensuite par les Lynch eux-mêmes. Et donc, on criera à la canaille, hein, on appellera les Lynch la canaille, alors que les Lynch diront « vous êtes mes débiteurs ». Donc, on est dans une lutte de langage entre un langage donc plus organique, celui des habitants, qui s'appuie les uns sur les autres, qui essaie d'être dans un système qui est plus proche de l'échange que celui de la transaction financière, et celui de la loi qui s'impose lourdement sur les personnages et qui les dépossède, hein, il les dépossède de leur langage. Et là, j'avais différents exemples que j'essaie de reproduire ici de mémoire, différents exemples comme quoi le langage de la loi s'opposait au langage de la communauté. Le premier exemple était effectivement l'idée que les Lynch utilisent le terme débiteur pour parler des habitants, alors que les habitants, eux, n'ont d'autre langage que celui ordurier, insultant, comme canaille, il y en a une certaine suite. Donc, on est déjà dans un rapport comme celui-ci. Le deuxième, c'est l'idée qu'il nomme le huissier le bailli, hein, qui évoque plus une tradition d'Ancien Régime lointaine. Le bailli, c'est celui qui avait le pouvoir judiciaire au nom du roi. Là, on est dans la common law, on est au Canada. Donc, ce côté un peu suranné du terme, qui n'est pas adéquat avec le droit tel qu'il est pratiqué. Et enfin, il y a la famille des Lynch, hein, qu'on pourrait prononcer Lynch. qui peut nous rappeler Lynché ou Lynché de William Lynch, qui est un révolutionnaire américain au 18e siècle qui a particulièrement favorisé le lynchage, ce qui fait en sorte qu'il existe cette oxymore de Lynch Law, qui veut dire un traitement without due process of law. Donc, c'est lyncher quelqu'un, hein, c'est finalement faire un procès à quelqu'un sans faire un procès à quelqu'un, qui est comme la loi sans la loi. Et donc, dans le nom même des propriétaires du magasin général, il y a cette idée d'une loi sans loi, hein, d'une loi qui n'est qu'une pure domination, qui n'est qu'un pur choix, d'une pure position, disons, au sein de la société qui peut dominer la communauté. D'ailleurs, David Graeber, dans Bureaucratie, parle en général de la loi comme étant une persécution. La loi est une organisation de la persécution à l'intérieur donc, des organes. C'est un peu là où je voulais en venir, donc, avec ma présentation de la loi dans une opposition entre la communauté et la société. Puis je pourrais peut-être tirer un peu la couverture vers mon autre projet, celui de la lecture interventionniste, peut-être simplement pour mentionner qu'avec Cassie, donc, j'avais écrit un article qui est paru en 2018, donc dans Voix Images, qui s'intitulait « Tuer entre nous », où est-ce qu'on partait ensemble de la même prémisse qui était celle d'une absence de loi dans les communautés telles qu'on les pense quand on pense au terroir. Quand on pense roman du terroir, on ne pense pas à des policiers. Il n'y en avait effectivement pas. Les policiers se sont professionnalisés au Québec après les années 1920. On ne pense évidemment pas à des représentants de la loi, que serait un médecin légiste, que serait un juge ou quoi que ce soit. Et effectivement, dans la représentation qu'on en fait, hein, ces gens-là sont absents. Il ne reste que le notaire qui n'a aucun pouvoir dans la loi criminelle. Le notaire est un agent du droit civil. Dans cette analyse que Cassie et moi on avait faite, on analysait des romans du terroir. Contemporain. Donc, comment est-ce que dans le contemporain, on représente le terroir québécois des années avant 1950, disons? Et comment, dans cette représentation, on voyait se développer des romans policiers, mais des romans policiers sans officiel policier, sans policier, sans médecin légiste, sans juge, sans personne pour faire agir la loi. Et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on pense le terroir dans notre imaginaire, on va projeter ça, cette absence de loi, comme si, finalement, la justice devait se faire par communauté. Donc, par exemple, dans « Trois fois la bête » des années Roy, ben, la médecin légiste, c'est la sage-femme, en gros, hein, qui dit « Oh, il y a des bleus ici, c'est pas normal. » Bon, et qui essaie, elle, de reconstituer le truc. Et c'est la communauté qui, finalement, vont attaquer une bête en se disant ben, « Une fois que la bête va être tuée, on va sans doute avoir réglé la situation, alors que, clairement, ce sont des meurtres qui sont en place. » Et donc, tous les romans qu'on analysait, les trois romans qu'on analysait, montraient ça de façon assez claire. C'est également, donc, à la même époque que j'avais fait avec Thomas Carrier-Lafleur, mon enquête sur Maria Chapdelaine, qui reprenait un peu le même principe. Donc, je terminerai peut-être en mentionnant que, peut-être en reprenant les termes de David Graeber, que je ne me souviens pas donc par cœur, mais ces termes disaient en gros qu'on représente trop souvent le policier comme étant en lutte contre la criminalité. Il dit, on les représente ainsi par hyperbole. Et là, il dit par hyperbole, pourquoi? Parce qu'il dit, en gros, hein, le policier, le gros de son travail, c'est d'établir des règlements, c'est-à-dire de punir les gens qui vendent quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de vendre, d'acheter quelque chose qu'ils n'ont pas le droit d'acheter, de stationner quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de stationner. Et donc, en gros, hein, le policier est un bureaucrate avec un fusil qui va donner des constats d'infraction et très peu, donc, quelqu'un qui va être là pour punir le crime. Et c'est même très peu sa tâche. Hein. Sa tâche est de faire respecter la loi impersonnelle de la société. Et donc, dans les œuvres que j'analyse, je dirais que cette paperasse du bureaucrate policier ou des gens de loi, ben, elle est en compétition avec la littérature, ou la littérature lui fait compétition. Et donc, je pense que je reviens ici avec ce que disaient Laurence et Cassie, c'est cette idée d'une littérature qui se met clairement en compétition avec le texte de loi pour pouvoir lui offrir autre chose, lui offrir donc d'autres points de vue.
Merci beaucoup à tous les trois. Quand ça a commencé, on a eu l'impression que je leur avais imposé la question sur la loi et que personne ne voulait la définir, mais ce n'est pas moi qui ai eu cette idée-là. On l'a eu tous ensemble, puis vous avez vu au fur et à mesure que sans s'arrêter une définition, on a eu quand même un certain nombre de récurrences. En tout cas, la loi n'est pas très aimée. Elle fonctionne plutôt comme un repoussoir, que ce soit pour la littérature ou je ne sais plus quelle était ta phrase, là, c'est la poésie a eu raison de la loi. La question du queer aussi, on voit bien que ce que posent vos projets, vos corpus, c'est surtout la question, je dirais, de la dérégulation et de la loi comme autorité à questionner, à chahuter.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.